il y a une déforestation de plus en plus forte et on peut penser que dans les années à venir, avec l'augmentation de la demande d'huile de palme, il y aura une demande de plus en plus forte pour la terre, les terres forestières. C'est une menace. Il faut réfléchir de manière très urgente pour voir comment canaliser ce développement-là et s'assurer que demain, on n'aura pas remplacé la forêt par des palmiers à huile.
Est-ce que le gouvernement arrive à mettre finalement des garde-fous à cette expansion de ces multinationales ou est-ce que c'est vraiment une affaire de business et on peut difficilement y faire quelque chose?
Il faut dire que la politique gouvernementale est une politique d'incitation à l'investissement. Donc, on a très bon œil à arriver des investisseurs dans tous les secteurs, y compris dans le secteur de l'agro-industrie. Le développement dans l'agro-industrie se superpose à l'exploitation forestière, à la construction des grandes infrastructures, au développement du secteur minier. Et donc, tous ces développements qui surviennent au même moment et qui ont pour espace la zone forestière constituent une menace extrêmement forte qui n'a pas été perçue. Donc aujourd'hui, il faut y aller rapidement et de la manière la plus efficace qui soit pour s'assurer que la forêt ne va pas être sacrifiée sur l'autel du développement.
On parle beaucoup de l'accaparement des terres. Est-ce que, selon vous, toutes les populations au Cameroun parviendront à se faire entendre? Parce qu'il y a des procès en cours actuellement, n'est-ce pas?
Alors, il y a des procès en cours et ces procès reflètent les incompréhensions. Donc, on a un droit écrit qui est très favorable à l'État comme gestionnaire des terres et un droit coutumier. Donc on a deux propriétaires qui se font face et l'État, en vertu du droit écrit, du droit foncier écrit, attribue les concessions à des compagnies qui viennent s'installer sur des terres dont les communautés revendiquent la propriété. Donc là, il faut arriver à trouver un mécanisme qui permette de préserver les droits des populations. Le gouvernement en a perçu la nécessité et aujourd'hui travaille à la réforme foncière.
Est-ce que l'accord avec la SOCFIN, pour vous, est un accord positif, prometteur, en matière de consentement des populations, par exemple, et de la politique zéro déforestation?
Il est important que les grandes compagnies adoptent une politique zéro déforestation. Il y a des zones forestières qui ont déjà été dégradées et qui, justement, à cause de cela, en raison de cela, peuvent être propices à la culture du palmier à huile sans menacer le reste du couvert forestier. Donc la réflexion sur l'aménagement du territoire devrait aller dans le sens de l'identification de ces zones-là, de l'identification des droits des communautés à ces endroits-là, et on devrait éviter pour les compagnies d'avoir une attitude également autoritaire dans la manière dont elles prennent possession des lieux et dont elles exploitent les lieux. Donc la clé, encore une fois, sur ces questions devrait assurer que les communautés sont associées de manière adéquate. Il faut mettre en place des mécanismes de dialogue pour s'assurer que les deux parties, les communautés et les compagnies, se comprennent, qu'elles identifient leurs différends et qu'elles essayent de voir comment construire une cohabitation harmonieuse. Et cette cohabitation harmonieuse passe par un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est qu'il faut pouvoir être prêt à ne pas investir dans des zones où les communautés ont des droits et refusent que l'investissement se passe. Il faut que la compagnie ait la sagesse de se retirer de ces endroits-là. Le deuxième principe, c'est s'assurer qu'il y a un partage de la richesse générée sur les terres dont les communautés revendiquent la propriété. L'investisseur apporte de l'argent à une expertise, mais les communautés se considèrent comme les gardiennes de la terre, les propriétaires de la terre. Donc là également, il faut que cette qualité-là soit reconnue par l'investisseur qui apporte à la communauté une rémunération, une sorte de rente, soit alors une création d'emploi, mais quelque chose qui permette à la communauté d'avoir une partie des bénéfices générés par la terre dont elle revendique la propriété. Le troisième principe devrait être de mettre en place un mécanisme d'identification et de gestion des conflits. Si on veut organiser une cohabitation à long terme, il faut qu'il y ait un mécanisme qui permette à une tierce partie de régler de manière neutre les conflits qui surviennent. Donc, l'approche de SOCFIN est intéressante en ce sens que, au moins, il y a une amorce de dialogue entre les communautés et la compagnie. Mais, de toute évidence, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller plus loin pour s'assurer qu'il y aura un partage de la richesse générée. Il y aura, en termes de création d'emplois, en termes de recrutement des jeunes, parce qu'il y a une demande très forte, en termes de reconnaissance des espaces qui seront rétrocédés aux communautés, parce qu'encore une fois, il y a une demande très forte de terres pour l'agriculture. Il faut assurer la sécurité alimentaire, il faut assurer la génération des revenus. Il faut aller plus loin en termes de règlement des conflits présents et passés.